CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « L'humilité, une qualité précieuse ». J'espère que vous êtes tous remplis d'humilité aujourd'hui.
Ben, on te le dira pas. Si on te le dit, c'est qu'on ne l'est pas.
Oh, ça, c'est de la superstition. Ah,
non. Personne qui ose parler.
C'est clair. Enfin, tout le monde va être très silencieux.
On va se cacher sous les comptoirs pour faire notre rubrique.
L'humilité ne consiste pas à être silencieux, mais à élever Christ à notre place.
Amen.
Voilà, j'ai résumé l'émission.
Bon. Seigneur, tiens-toi au milieu.
À la prochaine. À bientôt dans une autre émission.
Ouais, remplis-toi d'humilité.
On est prêts, Yveline. En tout cas, on est prêts pour cette émission.
Super,
et
c'est
puis,
parfait.
Nadine, elle est prête.
Nadine,
moi
tu
aussi.
Vas faire une rubrique famille.
Oui, je vais pourquoi vous donner le secret d'une relation harmonieuse.
Waouh.
Bah, l'humilité.
Le secret, ouais, c'est ça.
Il n'y a pas de suspense,
Nadine. Punch.
Ok, on va commencer tout de suite avec toi, Frank, dans la pensée du jour.
Eh oui, pour la pensée d'aujourd'hui, on va parler de l'humilité. Et puis, je veux commencer en vous donnant quelques versets que vous allez pouvoir aller méditer à votre maison parce que c'est super important d'en avoir. Et je sais que dans la pensée du jour, souvent, on cite un verset et c'est tout. Mais là, j'ai fait exprès d'en noter quelques-uns. Fait que prenez-les en note. Colossiens, chapitre 3, le verset 12. Éphésiens, chapitre 4, le verset 2, Jacques, chapitre 4, le verset 6, 1 Pierre, 5, 5 et Michée, 6, 8. C'est super important de pouvoir méditer sur des versets par rapport à l'humilité et qu'on puisse comprendre à quel point Dieu met l'humilité en importance d'une façon, c'est capital dans la parole de Dieu. Quand tu lis et tu vois tout ce que Dieu dit par rapport à l'humilité, autant dans les proverbes aussi, ça parle énormément de l'humilité. Le premier point que je voulais vous apporter, c'est que Dieu, pour lui, c'est tellement important. Et on doit rechercher à devenir quelqu'un qui est de plus en plus humble à l'image de Jésus. Et on revient toujours à ça, être transformé en la même image que Christ. Ça revient toujours à ça. La vie chrétienne, c'est ça en général. On veut toujours être de plus en plus comme Jésus. Et il a démontré le modèle parfait de l'humilité. Lui qui a quitté son ciel de gloire pour venir pour nous, ici, des gens, des pécheurs sur la terre. Oui, en effet, on était ça. Mais il n'a pas regardé à ça. Il s'est humilié lui-même. Et la Bible nous dit qu'il s'est humilié même jusqu'à la mort de la croix. Et Jésus était le parfait modèle de l'humilité. C'est très important de le comprendre. Deuxième point que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est que on est dans un monde qui tout doit tourner autour de nous. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, tout doit tourner autour de nous. Comment est-ce que moi je suis suivi? Comment est-ce que moi je suis liké? Comment est-ce que moi les gens aiment qu'est-ce que je mets tout ça? Et ça, ben ça va nourrir l'orgueil. Mm-hmm. Ça va pas nourrir l'humilité. Au contraire, ça va nourrir l'orgueil. Prends conscience aujourd'hui que dans le monde dans lequel on est, tout est fait et tout va tirer pour que tu ne marches pas dans l'humilité. Tu vas vouloir avoir l'appréciation de tous les hommes et Dieu dit de pas rechercher à ce que on ait l'approbation des hommes, mais à ce qu'on ait son approbation à lui. Amen. On doit marcher, on doit tendre vers ces choses. Et le troisième point rapidement que je voulais vous apporter, et c'est quelque chose que moi je m'efforce à faire personnellement, c'est de réaliser à quel point tout est une grâce de Dieu. Pour les gens du monde, ils pourraient rire en m'entendre, ils vont m'entendre dire ça, ils vont dire, mais Frank, tout est une grâce de Dieu. Non, je me suis réveillé ce matin, j'ai pu voir ma femme, mes enfants, leur dire à quel point je les aime, j'ai de l'air à respirer, tout ce qui est bon, le soleil qui est là, la chaleur, le froid en hiver, hallelujah, toutes ces choses, c'est une grâce de Dieu. Et ça, c'est assez pour nous rendre assez humbles, assez rapidement. Je me dis, mais Dieu, tout ce que tu as fait pour nous, tout ce qui est bon vient de toi. Et Dieu, je veux pas l'oublier, je veux pas m'enorgueillir pensant que je peux être autosuffisant, pensant que je peux tout faire par moi-même. Non, le jour où il y aura plus de soleil, la terre va arrêter. C'est Dieu qui contrôle tout. Il est au contrôle de toutes ces choses et on doit vraiment avoir cette attitude. Dieu, je veux te remercier et je veux être conscient de ça. Je veux marcher dans l'humilité, être transformé à l'image de Jésus. Et dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, aide-moi, préserve-moi de tout ça, tout ce qui est là pour à ce que ça puisse nourrir l'orgueil. Préserve-moi de ces choses-là. Père, aujourd'hui, préserve-nous. Ça devrait être notre prière et on devrait prier cela régulièrement. C'est quelque chose qui est super important. Et puis oui, c'est vraiment vrai. L'orgueil va précéder la chute. Et la Bible en parle et on doit l'accepter. C'est comme ça. On doit rechercher des gens humbles. Yveline, de plus en plus à tous les jours.
Amen. C'est tellement précieux, l'humilité. Moi, je peux vous faire un contre-témoignage de ma personne. Je sais qu'à chaque fois que je me... Oui, je fais preuve d'humilité. Mm-hmm. À chaque fois que je crois, que je me dis « Ah, ben c'est bon, ça, je sais bien le faire, ça, je le maîtrise bien. » C'est que je me dis « C'est bon. »
Tu vois la suite.
Pam. Et là, où ça se passe super mal.
Une peau de banane.
Et c'est clairement ça. Et on se pose des peaux de banane nous-mêmes, vraiment. Et en fait, quand on oublie de compter sur Dieu, sur sa grâce, parce qu'en réalité, nos talents, nos capacités nous viennent de Dieu. C'est, on n'a aucune gloire à avoir ça. Et quand on oublie qui est la source de toutes ces choses, eh ben, généralement, on finit par tomber. Et Frank, l'orgueil cause malheureusement beaucoup de dégâts.
Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir de quelqu'un qui est vraiment dans l'orgueil? Bon, c'est sûr que oui, hein, y a des gens qui sont très orgueilleux, on peut le voir. Quand tu parles avec certaines personnes, ça se sent. C'est pas de juger, c'est de constater que c'est là. Et puis, c'est des gens, une des caractéristiques qu'on peut remarquer, ce sont des gens qui ne voudront pas recevoir forcément le conseil de personne.
Ouais.
Ils vont tout savoir. Ils vont avoir la réponse à tout. Et toi, ta pensée, ce que tu pourrais les apporter, ça m'importe peu. Moi, qu'est-ce que tu voudrais me dire? J'ai déjà la bonne réponse. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis ça va être super nocif. Et je crois que Nadine va en parler dans sa rubrique, dans le couple. L'orgueil dans le couple, ça va faire des gros, gros, gros dégâts. Il faut vraiment pas marcher dans l'orgueil, mais faut chercher à être, c'est ça, être dans l'humilité régulièrement de plus en plus. Ça, c'est juste une des caractéristiques que je voulais soulever aujourd'hui. C'est qu'on va être des gens, on va devenir prétentieux, on va fermer l'oreille au conseil, on voudra pas avoir le... Et puis, quand tu regardes Jésus, il dit... Mais moi, tout ce que je le fais, c'est parce que je vois le Père faire. Oui. Il était dépendant de Dieu tout le temps. Mm-hmm. Et ça devrait être notre attitude à nous aussi.
Oui.
Ouais. Tu disais, tu parlais de cette humilité. L'humilité, pour moi, c'est quelque chose qu'on fait à propos, c'est quelque chose qu'on pratique. L'humilité se pratique, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose qu'on décide de pratiquer. Et un jour, j'ai remarqué qu'en fait, tu sais, je voulais vivre plus avec Dieu. Et j'ai lu le verset, l'humilité précède la gloire. Et je l'ai compris tout à fait différemment. J'ai compris que c'était un ordre chronologique. Tu sais, que
j'avais pas compris ça.
Non, mais c'est pas de cette manière-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est devenu. Ah, je veux vivre la gloire de Dieu. Je veux vivre des choses dans ma vie. Je veux vivre des percées. Je veux vivre ces choses-là. Mais Dieu me dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, l'humilité. Et l'humilité, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui était comme stagnant, alors qu'en fait, l'humilité, c'est un processus qui t'amène toujours vers la gloire, comme l'orgueil t'amène toujours vers la chute. Et aussi, il y a un verset qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ?
C'est vrai.
Et je pense que pour nos amis qui nous regardent aujourd'hui, qui se disent « Ouais, mais comment je peux faire en sorte de pratiquer l'humilité ?» Bah, dans son travail, on peut pratiquer l'humilité. Dans son couple, on peut le faire, on va le voir. Dans nos amitiés, dans nos relations, on peut le faire, pratiquer l'humilité en recevant le conseil des amis, en recevant le conseil des gens qui même des fois, on a l'impression que oui, mais comme on partage pas les mêmes idées, etc., c'est impossible que je reçoive. Mais est-ce qu'on peut juste recevoir le meilleur de ce que les gens nous partagent? C'est aussi un signe d'humilité, savoir reconnaître que les gens, ils ont une connaissance, une sagesse, une expérience qu'on n'a pas forcément. Et je laisse la parole pour pas ne paraître orgueilleux.
Mais c'est très bien.
Je l'apprends.
C'est bien, hein, c'est pratique, c'est bon.
J'entends ce que tu dis, mais il me semble aussi que l'humilité, ça vient dans un processus de maturité. Et que c'est justement quand on a expérimenté profondément que sans Jésus, on ne peut rien faire, hein, comme il est dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, c'est ce fameux passage sur le cep et les sarments, disant je suis le cep et vous êtes les sarments. Ouais. Le sarment ne peut pas vivre et porter du fruit par lui-même. Il est obligé d'être connecté au cep. Et en fait, toute la vie, tout le fruit va venir du cep. Et c'est dans ce passage-là qu'il est dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais. Et je pense que ça vient avec la maturité nécessairement, parce que quand on est encore un enfant dans la foi, on n'a pas encore réalisé à quel point on est dépendant de Dieu pour tout. On n'a pas encore conscience de notre faiblesse. Et l'humilité, ce n'est pas s'auto-flageller en disant « je suis bonne à rien, je suis bonne à rien ». Ça, c'est quasiment de la fausse humilité.
Oui.
Mais de dire « je suis capable de ce que Dieu me permet de faire ». Et entre les mains de Dieu, je vais être un instrument utile. Exactement. À condition que je me laisse conduire, que je sois obéissant, que je sois soumis à l'autorité de Dieu et que j'ai amené toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et c'est dans cette configuration-là qu'on va devenir âme, j'allais dire quasiment à notre insu. Mmh. C'est parce qu'on a compris les vérités fondamentales de notre dépendance envers Dieu. Mmh. Parce que j'en ai vu, puis je repensais quand on préparait l'émission, je me souviens d'un jeune, un jeune qu'on a vu dans une de nos églises, ça fait de nombreuses années. Et puis, il avait eu un petit reproche, comme quoi il était un peu trop orgueilleux, il se pétait un peu trop les bretelles. Et beaucoup de gens lui avaient fait des compliments, du coup, il se pensait arriver, le petit jeune homme. Et un jour, comme il avait été piqué, parce qu'on l'avait comme laissé entendre qu'il manquait peut-être un peu d'humilité, on avait une journée de gros travaux à l'église et il avait attendu que tout le monde arrive et soit à son poste. Et lui, il est arrivé, il a fendu la foule avec un seau et un balai à toilette pour montrer qu'il avait tellement d'humilité qu'il allait nettoyer les toilettes.
Sauf que c'était une démarche pas du tout humble.
Et moi, j'étais en haut d'un escabeau en train de peindre un mur et j'étais écroulée de rire parce que je me suis dit « Ah, ah, t'as rien compris !» Et en fait, ça, c'est drôle parce que quand on veut absolument montrer qu'on est humble, c'est vraiment parce qu'on a un problème en amont qui n'a pas été réglé. C'est pour ça que je dis que ça va avec la maturité qui peut venir assez rapidement dans notre vie chrétienne. Mm-hmm. Mais c'est vrai que chez certaines personnes en particulier, ça prend du temps.
Il y a un brisement.
Il y a un brisement et il y a besoin de comprendre notre dépendance absolument essentielle envers Dieu.
Je crois que vraiment l'humilité se pratique souvent en faisant. En se la bouclant simplement. Ouais. Parce que souvent, en fait, on se met nous-mêmes dans des situations où au début, on n'avait pas forcément prévu d'être orgueilleux, on veut juste raconter quelque chose qu'on a
puis
fait.
Paf. Parce que...
Et puis en fait, on a une façon de le dire et en le disant, on s'enorgueillit en fait parce qu'on voit l'attitude des autres et tout. Et souvent, en fait, garder le silence, c'est une très bonne méthode pour l'humilité.
J'étais sur le tournage de Prière inspirée, il y avait Audrey Mac qui était là avec Jérémy, puis en fait elle a commencé à partager quelque chose sur l'humilité qui est vraiment très très puissant. Elle parlait de Moïse qui a écrit lui-même qu'il était l'homme le plus humble, et c'est lui-même qui l'a écrit. Et en fait elle a commencé à décrire l'humilité comme se voir exactement de la même manière que Dieu nous voit, en fait, sans artifice, sans ce qu'on veut paraître. Et l'humilité, c'est nous voir comme Dieu nous voit. Mmh. J'ai trouvé ça tellement puissant.
C'est pas se dénigrer.
C'est ça. Mmh. Et c'est ni se dénigrer, ni non plus s'élever. Mmh. Parce qu'on sait comment Dieu nous voit, on sait comment on est réellement, on sait comment on réagit, on sait comment est notre vie, l'état de notre cœur, etc. Mais lui, il a pu dire ça, Moïse, parce qu'il voyait comment Dieu le voyait. Mmh. C'est pour ça qu'il avait ni une arrogance, ni je ne sais pas, moi, il se dénigrait pas. Mais en tout cas, il avait cette assurance que Dieu savait son cœur, connaissait son cœur.
Ouais. Et Frank, l'un des pièges de l'orgueil, c'est quand justement Dieu nous élève, en fait. Là, il faut être capable de rester humble. Et c'est d'autant plus difficile quand justement on commence à vivre des percées avec Dieu.
Ben, c'est clair. Puis pour beaucoup de gens qui vont nous écouter, vous avez peut-être déjà vécu une certaine élévation dans votre église, dans votre travail, peu importe c'est quoi. Mais qu'est-ce qu'on voit au travers de la parole de Dieu, et ça c'est ce que Jésus nous a démontré, c'est que le caractère doit suivre le talent qui est là aussi.
Oui.
Quand que quelqu'un se fait élever par les hommes, et c'est pas Dieu, c'était pas le timing de Dieu, les hommes ont élevé un chanteur, une chanteuse, ou peu importe c'est qui, et le caractère n'était pas là pour suivre, c'est sûr que la chute va arriver.
Mm-mm.
Tôt ou tard, il va y avoir une chute. La personne ne va pas vouloir écouter les conseils des pères ou des mères dans la foi, il va y avoir ci ou ça. Et qu'est-ce qu'on voit de Jésus? Tu dis Jésus, il était le leader par excellence, il a démontré parfaitement qu'est-ce que c'est d'être un leader, il est allé laver les pieds de ses disciples, et c'était pas pour montrer justement qu'il était humble, non, il voulait démontrer que celui qui va vouloir servir Dieu, ben il va devoir, oui, s'humilier. C'est pas, aujourd'hui on a la mentalité dans les entreprises, le patron, lui, il se fait servir, mais Dieu dit, si tu veux me servir moi, tu vas servir les autres, tu vas regarder aux intérêts des autres avant tes intérêts.
Oui.
Jésus démontrait tout ça, et ses disciples étaient là, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, c'était un niveau supérieur, là. C'était autre chose. Mais Jésus l'a démontré. Et si on veut devenir quelqu'un qui est fort, qui va savoir résister aux tentations, aux attaques de l'ennemi, quand Dieu va nous élever, le caractère de Christ doit avoir suivi le développement du talent et du don qui était là aussi, qui a été mis en évidence. C'est super important.
Pour rebondir là-dessus...
Vas-y,
je parle beaucoup, hein.
Mais
c'est que la nuit, le soir où il fut livré, la Bible dit que Jésus mit le comble à son amour et qu'il ôta son vêtement. Et son vêtement, le vêtement, c'est le titre. c'est ce qu'on est, c'est le manteau d'Élie que tout le monde voulait récupérer, attendre qu'il retombe. Et il dit, et la Bible dit que le soir, ou la nuit où il fut livré, Jésus mit le comble à son amour, il ôta son vêtement et il lava les pieds de ses disciples. Et en mettant le comble à son amour, ouais, il a ôté son titre, il a ôté ce vêtement que tout le monde voulait recevoir, mmh, cette onction même, mmh, tu sais, cet appel au ministère, ce ministère même que tu as, mmh, il l'a enlevé pour servir les autres. Et je trouve ça tellement puissant que c'est à ce moment-là que la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour.
C'est vrai.
T'as bien rebondi, Gwen, en tout cas.
Non, vous n'avez plus envie de parler.
Non, c'est tellement humble que... Tu nous as dit de nous taire.
Vous êtes très humble. Vous êtes très humble. Bah, c'est très bien. Bah, c'est moi qui vais prendre la parole.
Vas-y,
alors.
Vas-y.
Le problème, c'est que justement, souvent, quand on va faire quelque chose de bien, comme là, par exemple, Jésus lave les pieds du disciple, il n'est pas allé se glorifier partout en disant « Eh, vous savez quoi, j'ai lavé les pieds des disciples. » Et c'est souvent ça qu'on fait, c'est que « Oh, j'ai donné une somme d'argent à un sans-abri. Oui. Oh, j'ai fait ça. Oh, tu sais pas ce que j'ai fait. » On part d'un principe bon de vouloir édifier les autres, mais en fait, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est qu'on veut se mettre en avant. Et c'est le cas avec la piété. J'ai prié tant d'heures cette nuit, jeûné tant de fois l'année dernière, mais c'est le cas dans le quotidien.
Ça, et j'ai su que des gens mettent sur Instagram qui sont allés prier à 4 heures le matin pour démontrer. J'ai appris ça.
Ça t'a choqué.
Et ça t'en parles, ça me choque
mais
encore.
Il y a un principe vraiment fondamental.
Pourquoi tu fais ça?
Il y a un principe fondamental qui se retrouve dans plusieurs exemples dans l'évangile, enfin dans la Bible tout entière même, c'est que quand tu pries, tu fermes la porte de ta chambre et tu pries dans le secret, ton père qui te voit dans le secret te le rendra. Quand tu jeûnes, tu te parfumes la tête et tu vas pas chanter sur tous les toits que tu jeûnes. Quand tu fais l'aumône, il faut pas que ta main droite sache ce que fait ta main gauche. Il y a un principe que Dieu agrée ce que tu fais de bien pour lui et pas pour être vu d'eux. Ou ne sois pas comme ces hommes religieux qui prient debout en pleine lumière devant les murs pour être vu. Et donc quand on est là pour être vu des hommes, il y a toujours cette conséquence dans les passages bibliques qui parlent de ça, c'est que ils ont déjà leur récompense.
Exactement.
C'est-à-dire que tu cherches une récompense de prestige, de reconnaissance, je sais pas, ou d'applaudissements tout simplement.
Souvent, hein, oui.
Et donc si tu les obtiens parce que tu t'es mis en vitrine, bah tu l'as déjà ta récompense. Et donc le but quand même, c'est que Dieu, et on est l'approbation de Dieu, que Dieu agrée notre geste, que ce soit une aumône, la prière, le jeûne ou n'importe quoi, faire quelque chose de bien envers son prochain. Donc le principe, c'est de faire les choses pour Dieu et pas pour être vu des hommes, parce que la conséquence est là, sinon ta récompense, tu l'as déjà.
Exactement.
Donc quand on a compris ça, ben, ça nous donne plus le goût de se mettre en vitrine et de dire « Hey, regardez comme je suis un bon chrétien !»
C'est une récompense qui est vite passée et qui est nulle.
Qui est nulle, je veux dire, pour l'éternité, ça n'apporte
c'est
rien.
C'est ça, absolument rien.
C'est de la génération Instagram, quoi. C'est vraiment ça, c'est la génération Instagram. Je me suis mis en vitrine, je me suis pété les bretelles pendant 2-3 heures, j'ai eu quelques likes, quelques partages, mais c'est pas du tout ça, on passe complètement à côté du but. Parce que le principe, c'est que c'est fait dans le secret pour être vu de Dieu seul, et Dieu qui voit dans le secret te le rendra.
Exactement.
Et quand on a compris ça, il y a beaucoup de choses qu'on met plus dans Instagram.
Vraiment, vraiment. L'humilité, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien, et ça concerne pas juste les hommes ou les femmes de Dieu qui, eux, sont encore plus sujets à l'orgueil, et puis encore plus attaqués même par l'orgueil, envie de dire. Mais ça nous concerne, nous tous, enfants de Dieu. Je crois que si on est capable de tous manifester une bonne dose d'humilité dans notre quotidien, on va faire la différence aussi, puis on sera aussi un exemple pour ceux de l'extérieur qui nous voient et de se dire, ah bah tiens, malgré tout ce que cette personne fait de bien, de bon, eh ben elle s'en vante pas, elle ne le dit pas. Ouais. C'est un témoignage aussi. Et on va voir que l'humilité dans le couple, ça évite bien des conflits. On en parle dans la rubrique famille. Nadine, est-ce qu'on va grincer des dents pendant ta rubrique ou pas? Nous allons voir. Mais tu vas nous parler de comment avoir ce couple harmonieux et d'un secret bien caché.
D'un secret bien caché, mais qu'on a parlé déjà depuis les 15 dernières minutes, qui est l'humilité. Et vraiment, ma prière, c'est que le Saint-Esprit vienne vous parler alors que vous écoutez. Parce que des fois, quand on est orgueilleux, ce qu'on entend, même si ça nous parle directement, on ne le reçoit pas parce qu'on est orgueilleux.
C'est vrai.
Et vraiment, ma prière, c'est que vous recevez ce qui va être dit, que dans les mots qui vont sortir de façon peut-être spontanée, que vraiment le Saint-Esprit vienne vous toucher parce que l'orgueil tue les couples à petit feu.
C'est vrai.
Alors, on parle de l'humilité qui est le secret d'une relation harmonieuse. Et je vais commencer par un verset qui, je crois, va nous aider à baser un petit peu notre rubrique. C'est dans Philippiens 2, verset 3, qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et ce verset, j'ai lu il y a plusieurs années, et vraiment, ça m'avait bouleversé de la façon, la conception de l'humilité, dans la façon dont le Seigneur le voit versus la façon dont nous le voyons. Et vraiment, dans le contexte de cette rubrique, alors qu'on parle d'un couple, on parle d'une relation, la Bible nous dit ici que dans nos relations, l'attitude de cœur que nous devons manifester, c'est de voir les autres, de vraiment d'élever les autres, c'est d'avoir le souci de l'autre, c'est de ne pas être égocentrique, de ne pas être centré sur soi-même, mais vraiment de rechercher le bien d'autrui. Donc je crois que dans le couple, l'humilité commence d'abord dans nos pensées. C'est d'abord une question de cœur. L'humilité se trouve vraiment dans notre dialogue intérieur. Qu'est-ce qu'on se dit à l'intérieur de nous-mêmes, avant même que les paroles soient sorties de notre bouche? Et des fois, vous allez voir que quand il y a un manque d'harmonie, c'est parce qu'il y a de l'orgueil dans le cœur. De la bouche, tu dis « Mon mari, je suis soumise à toi. » Mais dans ton cœur, tu te dis « Celui-là, vraiment, il a de la chance de m'avoir. » Et c'est ce dialogue intérieur qui, de façon non perceptible, mais dégage en fait ce que tu penses, l'orgueil.
Ça enorgueillit, en fait.
Voilà, l'orgueil que tu as dans ton cœur. Et vraiment, c'est ce qu'on médite dans nos cœurs, notre disposition de cœur, elle est vraiment importante. Il y a un verset qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est vraiment important, alors que vous êtes dans une relation de couple, de se dire, c'est quoi mes pensées par rapport à mon mari? C'est quoi mes pensées par rapport à ma femme? De bannir de son cœur les pensées que, ben, il a de la chance de m'avoir. Elle a de la chance de m'avoir. Non, tu as de la chance de l'avoir. De vraiment de se mettre dans cette position, comme Frank a dit dans sa pensée, que c'est une grâce d'avoir un couple. C'est une grâce d'être marié aujourd'hui, alors que vraiment c'est difficile, les couples sont attaqués. Et aujourd'hui, tu as un mari, tu as une femme dans ta maison, ben c'est une grâce. Et oui, vous avez des caractères différents. Oui, il y a des ajustements à faire, mais ça n'empêche pas que c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui a décidé qu'il ne regardera plus une autre femme. Quelqu'un qui a décidé qu'aucun autre homme ne l'intéresserait, c'est avec toi qu'elle veut passer le reste de sa vie. C'est une grâce quand même, ouais, quand on y pense bien, ouais, tu vois. Ouais. C'est une grâce, la personne, elle s'attache à toi dans les bons, les mauvais jours, avec argent ou sans argent. C'est avec toi que je veux coller ma vie jusqu'à ce que Jésus vienne me chercher. Waouh! D'avoir cette attitude de cœur, cette humilité va déjà se dégager dans le reste des choses qu'on va devoir faire.
C'est tellement vrai ce que tu dis par rapport aux pensées. C'est là que tout commence, hein, que tout germe. On commence à méditer sur des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui nous placent petit à petit dans une position où on ne devrait pas être dans le couple. Et c'est vrai que c'est très dangereux.
Puis je pense même au niveau spirituel. Là, on parle des pensées en général. Mais dans un couple, surtout un couple chrétien, il peut y avoir des pensées très orgueilleuses en disant « je suis spirituellement bien plus au-dessus de l'autre », que ce soit l'homme vis-à-vis de sa femme. Et il y a au fond de nos cœurs, sans qu'on l'exprime, peut-être un mépris pour l'autre, en disant ben, « heureusement, spirituellement, c'est moi qui porte le couple ». Et on ne le dit pas, mais on le pense. Et ça, déjà, de toute façon, c'est nos pensées qu'on doit amener captives à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas nos actes, hein, parce que les pensées engendrent tout le reste.
Exact.
Donc, c'est les pensées qu'il faut vraiment purifier. Puis, j'allais dire, on parlait tout à l'heure d'être seul à seul devant Dieu. Ben, nos pensées, c'est seul à seul devant Dieu, parce que Dieu les sonde, nos pensées.
C'est vrai.
Et quand on a ces pensées-là d'orgueil spirituel, mais Dieu les entend et Dieu les voit.
Exactement. Oui. Et ça fonctionne dans les paroles aussi.
Dans les paroles aussi. Oui, je parlais de l'humilité dans les paroles. Et la Bible dit dans 1 Pierre 5:5, Frank en a parlé dans sa pensée, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est une décision que d'avoir de l'humilité dans nos échanges. Parce que là, on va parler des paroles, et je vais parler des paroles incendiaires. L'orgueil vient souvent se mêler dans des paroles incendiaires, dans des paroles, des pics. Tu dis quelque chose que tu sais que ça va juste mettre le feu, en fait. Des paroles qui sont comme des accélérants. Tu sais, quand il y a un feu, puis tu mets un accélérant, et le feu prend vraiment. Et c'est vraiment important de se rendre compte que dans l'harmonie du couple, l'orgueil est un tue, ça tue vraiment le couple. Et vraiment d'apprendre à savoir se taire. Savoir se taire quand il faut. Savoir apprendre à éteindre le feu et non le rallumer. La Bible dit dans Proverbes, il y a deux proverbes que je vais vous dire, mais il le dit à plusieurs reprises, mais il y en a deux que j'ai retenues. Proverbes 20, verset 3, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Proverbes 18, le verset 6 dit, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque des coups. Donc les tic-o-tac, les disputes, les tic-o-tac, là, les ping-pong, j'appelle ça. Tu sais que je veux dire des conversations ping-pong, tu dis, je redis, ça vient casser le couple. Ça vient, c'est vraiment un manque d'humilité. C'est de l'orgueil que de dire je veux toujours avoir le dernier mot dans la conversation. Et ton dernier mot, en fait, c'est tu viens juste rajouter de l'essence dans un feu et tu viens embraser, en fait, votre couple avec des disputes qui vous affaiblissent. Et ça, je veux vraiment le dire, que les disputes affaiblissent le couple. Il y a des couples qui sont très passionnels et qui vont dire que les disputes, ça fait partie de, du piment du couple. Mais non. Parce que au début,
je suis d'accord. Amen, ma sœur. Amen.
Au début, vous vous disputez et vous vous réconciliez. Et puis bon, il y a un petit peu de voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis bon, peut-être qu'au début, c'est facile.
C'est quoi la question?
Un petit peu de vavoum là, un petit peu
c'est
de
quoi
dans le. Ça y est, Franck arrive.
Mais non, non,
il est arrivé en ville.
La puissance de la réconciliation.
Voilà, la puissance de la réconciliation.
La puissance de la réconciliation. Mais la puissance de la réconciliation ne doit pas être
une raison.
Une raison pour avoir des disputes tout le temps.
Parce surtout que la puissance de la réconciliation ne marche pas à durée indéterminée.
Voilà ce que j'allais
d'un
dire.
D'un moment, on garde des choses dans le cœur et la réconciliation devient de plus en plus minime.
Voilà, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont comme ça, surtout dans le début de leur relation, de leur mariage. On est jeune, on a 20 ans, on a 25 ans. On a la fougue, on se dispute, on se dit n'importe quoi. On s'envoie vraiment des paroles méchantes. Mais après, on se réconcilie. Un peu comme Samson qui dit, ben, je me relevais. Mais ce que vous comprenez pas, c'est qu'avec les années, vous vous épuisez. Puis avec les années, comme tu dis,
Yveline,
ces paroles restent et ces paroles minent. Ouais. Et le temps de réconciliation, il devient plus espacé. Et là, vous vous disputez, vous faites 3 jours, vous vous parlez pas, vous vous boudez, vous vous réconciliez. Après ça, ça devient 1 semaine. Après, ça devient 1 mois. Après, ça devient, il y a un, vous êtes ensemble, mais il y a comme une espèce de mur dans vos sentiments les uns envers les autres. Pourquoi?
Vas-y, j'ai une parole parce que tu dis ça, mais c'est tellement terrible quand que des gens se parlent plus.
Ouais.
Puis la parole dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère.
Ouais.
Puis ça, je tiens à le dire vraiment tout de suite parce qu'il y a des couples qui nous regardent, que ça fait des jours, des semaines que ça perdure, c'est pas normal. Et le diable va manigancer des sales plans, il va vouloir démolir des choses. Dieu, quand il dit ça, c'est parce qu'il sait, avant que tu dormes, réconcilie-toi. C'est tellement important.
C'est sûr.
Merci, Frank.
Toi, t'aimes pas le diable.
Je te fais une autre parenthèse aussi. T'as parlé de bouder. Je sais pas, est-ce que tu vas en parler après ou pas?
Non.
Non, ok. Parce que bouder, c'est clairement de l'orgueil. Bouder, c'est dire je ne te parle plus et je vais rester. Et au point où parfois tu sais même plus pourquoi tu boudes, tu sais juste que t'es en train de bouder, c'est tout. Et c'est refuser de s'humilier puis d'aller parler à la fin. C'est l'autre va venir me chercher, l'autre va venir me voir, et puis là, il va devoir s'excuser, puis il va falloir qu'il fasse beaucoup d'efforts pour que moi, j'accepte de lui adresser la parole, parce que moi, je suis pas n'importe qui. C'est ça, Boudé.
C'est exactement
c'est ça.
Ça.
Je te fais rire,
Oui. Je vois Yveline regarder. Moi, non, absolument pas.
T'es pas Bouddha.
Mais c'est juste, je vois Yveline, je me dis, elle a l'air de connaître certains...
C'est vrai, j'ai pratiqué le boudage.
Non, mais moi,
moi aussi.
Je rigole pour moi-même. J'ai boudé.
Mais c'est un signe d'intelligence de capituler.
Ben oui.
Des fois, on pense que c'est un signe de faiblesse, mais dans un couple, quand il y a une dispute qui commence à s'enclencher, celui qui est le plus mature et le plus intelligent, c'est celui qui arrête.
Ben oui.
Et qui dit, tu peux avoir raison. Tu as raison, ma chérie. Ou mon chéri, il n'y a pas de déterminisme dans ce que je veux dire. Mais c'est un signe d'intelligence, de maturité et d'humilité.
C'est ça.
Que de dire, tu veux avoir raison, tu as raison.
Ouais. Voilà. Faut pas le faire avec orgueil.
Non, mais je veux dire, pour la paix des ménages.
Mais oui, au bout d'un moment, faut juste s'écraser.
Pour la paix des ménages. Parce que si tu t'écrases pas, moi j'ai vu des couples, ça monte, et ça parle fort, et ça se dit des affaires. Puis là, t'es là, t'écoutes. Des fois, c'est devant témoin. Moi, j'ai déjà été témoin de discussions dans des couples, j'en étais gênée pour eux.
Oui, c'est horrible.
J'en étais gênée pour eux, j'en rougissais alors que j'étais pour rien.
Bon, Nadine.
Oui, alors.
Excuse-nous, tu nous as autorisé à t'interrompre.
Vas-y.
Mais qu'est-ce qu'on voit c'est... Vas-y, Nadine.
Vous êtes tellement dissipée aujourd'hui.
Oui, hein. Et ce que je veux dire, je veux rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que l'humilité n'est pas propre au genre. Parce qu'il y a des gens, parce que culturellement, parce que la Bible nous l'enseigne, la femme est soumise. Mm-hmm. Donc du coup, il ne sait pas reconnaître ses torts, il ne sait pas demander pardon en premier, il ne sait pas lui aussi s'arrêter dans une discussion quand tu vois que ta femme, elle est déjà échauffée, elle est déjà dans toutes ses émotions. De savoir temporiser les choses, mettre de l'autre dans son vin, parce que je suis l'homme, c'est toi qui vas venir vers moi. Non, c'est votre couple, à la fin de la journée. Mm-hmm. Si vous le brisez, c'est vous deux qui êtes perdants.
C'est
de savoir que cette grâce-là d'avoir un couple, nous allons travailler ensemble. Celui qui est plus averti, qui est plus alerte de dire, non, là, on est en train de glisser. Parce que tu peux discuter avec quelqu'un, tu sais quand vous discutez à deux et tu sais quand c'est l'ennemi
qui est en train de rajouter des choses, qui est en train d'ouvrir d'anciennes blessures. Et là, votre discussion qui était pour du pain glisse et ça devient autre chose. Ça devient une discussion d'un ultimatum de tout votre couple est remis en question.
C'est clair.
Donc, c'est très important de faire attention à ça. Et le manque d'humilité nous pousse évidemment à ne pas à vouloir à avouer ses torts, à camper sur ses positions, etc. Et je crois qu'il est important de demander pardon par la façon dont on a blessé l'autre. Si tu as blessé l'autre par des paroles, reviens et puis dire « Je t'ai mal parlé et je te demande pardon, là je me suis emportée. » Reviens pas avec des cadeaux, parce que des fois aussi, c'est ça qu'on fait. Tu as blessé la personne et là tu fais un repas. Mais non, tu lui as mal parlé. Mon amour, je m'excuse, j'étais mal parlé. Pas juste de faire un repas ou d'acheter un cadeau pour patcher.
Ça, c'est très maladroit.
Pour compenser, voilà. Bah, ça compense, mais après, ces paroles-là sont toujours là, puis ça crée des crevasses. Et à trois mots, j'ai envie de vous partager trois mots, les mots qui ne doivent pas manquer dans le vocabulaire de tout couple. Je t'aime, parce qu'on doit toujours exprimer son amour à l'autre, le rassurer que de sa place dans notre cœur, dans notre vie. Merci, ne pas prendre l'autre pour acquis, ça c'est très important. Et je te demande pardon. Mmh. Et c'est le « je te demande pardon » des fois qui manque. Et l'humilité, c'est de savoir demander pardon.
Mmh.
Et pour une relation harmonieuse, oui, c'est bien beau les « je t'aime » et « merci mon amour », mais je te demande pardon quand tu as mal fait, de savoir descendre. Et c'est là qu'on regarde dans le couple la personne qui est orgueilleuse. C'est cette personne-là qui est prête à dire « je t'aime », qui est prête à dire « merci », mais qui ne peut jamais reconnaître son tort. Si elle a mal fait, c'est parce qu'en fait, toi, tu avais commencé, c'est parce que tu as dit ça que j'ai dit ça. Donc, c'est super important de savoir demander pardon. Frank, tu veux dire quelque chose?
Non, pas du tout.
Ok, d'accord.
Moi, j'avais un ami qui disait toujours, pour éviter d'avoir à se demander pardon, commençons par ne pas nous disputer.
Non, mais ça, c'est tellement
ça. Déjà ça. Mais des fois, on peut aussi avoir... On est un couple, on peut avoir des situations où on n'est pas d'accord sur, sur un point. On peut ne pas être d'accord, mais discutons de façon intelligente.
Voilà.
Parce qu'à la fin de la journée, on dort dans le même lit. C'est toujours mieux de dormir collé. Voilà.
Donc, même, je dirais, dans un couple chrétien mûr, il n'y a aucune raison qu'on se dispute. Ça ne devrait même pas.
Ouais, c'est une discussion.
C'est tolérance zéro. Je sais que mon mari à la maison, c'est tolérance zéro pour les mots plus haut que l'autre. Hein.
Voilà.
Puis toute la famille est au diapason. Hein.
Voilà.
Au début, c'est un apprentissage parce qu'il y a des éducations plus latines que d'autres, sans faire de détails.
Mais,
c'est pas de toi, là. On est latin, attention.
C'est la faute des latins, maintenant.
Regarde, moi, je suis latine. Hein. Lui, il a plus de sang suisse, moi, je suis latine.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris au début de notre vie de couple. Bah oui, c'est vrai, les Suisses sont calmes et ils osent pas le ton facilement.
Hein, Gwen?
Et je sais que mon mari...
je suis pas suisse.
Mon mari, dès le début de notre couple... Il m'a vraiment passé le message que c'était tolérance zéro pour les mots plus haut que l'autre. On est des adultes, on va traiter les sujets de discorde calmement, paisiblement. Et puis on a élevé nos enfants comme ça. Hein. Et puis j'aime bien parce que ma fille s'est mariée avec un gars qui a été aussi élevé comme ça dans un foyer chrétien où on n'ose pas le ton. Tout se passe de manière civilisée et on se crie pas dessus comme des charbonniers. Voilà.
Voilà.
Désolée si vous êtes charbonnier. Ça ne veut pas dire que les charbonniers crient, mais bon.
Et comme dernier point, je veux parler de l'humilité dans nos actions. C'est tout à notre honneur d'honorer notre époux, d'honorer notre épouse. Et c'est là aussi qu'on manifeste de l'humilité. Tu en as parlé d'avoir des fois pensé qu'Anne a dit dans l'orgueil, de façon spirituelle, de dire « c'est moi qui suis sauvée, donc c'est moi qui suis un peu plus élevée que toi » ou « c'est moi qui suis plus avancée dans les choses de Dieu, c'est moi qui vous tiens. Si ce n'est pas de mes prières, cette maison serait déjà sans dessus-dessus ». Mais dans nos actions, l'humilité, elle se manifeste aussi. Elle se manifeste quand on honore son conjoint. Dans la façon dont on lui parle, dans les mots, dans le ton dans lequel on s'adresse à son mari, à son épouse. Colossiens 3:12, Franck a parlé de ce verset. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et c'est un choix conscient d'honorer son conjoint. On ne rentre pas dans le mariage puis on est humble comme ça, non. Il faut tout le temps se le rappeler, tout le temps choisir. Je choisis de t'honorer, peu importe ce que toi tu as dit, peu importe ton attitude, moi je t'honore. Je t'honore dans le comportement, je sais pas moi. Ton mari va faire laver ta voiture, faire ton changement d'huile, ou bien toi, tu fais le repas, tu le sers à manger. Peu importe comment vous choisissez de le faire. Mais c'est vraiment de l'honorer. Et l'honorer selon son langage d'amour. S'il aime les services rendus, c'est les paroles d'appréciation, des belles paroles. Mais l'honorer dans la façon dont tu lui parles, de l'honorer dans la façon dont tu parles de lui quand il n'est pas là, quand tu parles de lui aux autres. Pas en faire trop pour essayer de faire comme si vous êtes le couple, je sais pas moi.
Le couple de l'année. Le prix Nobel de couple.
Vous êtes un couple qui vous aimez et votre couple est important. Ouais. Et vraiment, on s'honore par la façon dont on se parle. Mm-hmm. Et cette humilité-là, on la manifeste dans la façon dont on parle de notre couple à l'extérieur. C'est important d'honorer, d'honorer son conjoint. Et j'aimerais vraiment dire que quand on honore son conjoint, on s'honore soi-même. Mm. Et vraiment de résister les moqueries. Des fois, on se moque. Et puis, des fois, tu peux faire une blague devant les enfants. Bah, c'était une blague. Mais en fait, tu t'es moqué.
Oui.
Tu l'as rabaissé, tu l'as diminué.
Ouais.
Et ça, c'est pas bien. Et vraiment, donc, c'était comme ça que je conclue.
Ça, c'est pas bien. D'accord.
Super conclusion.
Bon, j'aime ça, moi, cette conclusion.
Je sais pas, j'ai pas l'autre page.
Ben, donc, ta conclusion restera sur ça.
C'est pas bien.
Et c'est vrai, c'est pas bien.
Edouane va rebondir.
Rebondis pas trop.
Ah non, mais c'est parfait. Moi, j'ai aimé ce qu'elle a dit, Nadine. C'est tellement important dans le couple. Lorsqu'on, quand on commence à considérer qu'un couple, on est des alliés pour marcher vers notre destinée, vers la gloire de Dieu, vers toutes ces promesses, on est des alliés. Et donc, on n'a pas envie d'être ennemis avec ceux qui sont censés être nos alliés. C'est important de vraiment construire ça. Et puis, certainement, ça demande de l'humilité. Ça demande de marcher comme Jésus-Christ, cette parole qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Et on parlait tout à l'heure qu'il s'est humilié, qu'il s'est abaissé, qu'il a lavé les pieds. Donc, c'est de cette manière qu'on doit aimer notre épouse.
Il y a aussi...
Rebondis ?
Oui, oui, j'en
rebondis.
C'est peut-être mieux.
Vous êtes mignons, les deux.
On rebondit en même temps, un, deux, trois.
Mon ami. OK.
Et dans...
Pour Nadine, on rebondit.
Là, je reviens sur ce que je disais. Blaine a l'air que je parle. C'est important de pratiquer. C'est tellement puissant, le couple, qu'est-ce que Dieu a créé sur Terre. L'homme et la femme, le couple ensemble et tout. Et de pouvoir pratiquer l'humilité et toutes les autres choses, la bonté, l'amour, toutes ces affaires-là, premièrement avec son couple.
Mm-hmm.
Tu vois quelqu'un qui est au travail, souriant, à la maison, c'est comme il se fiche de tout le monde.
Mm-hmm.
Mais c'est quoi? C'est de l'hypocrisie. C'est pas comme ça que ça doit être. Et ça, je veux juste dire ça. Pratiquez premièrement envers vos enfants, votre femme, votre mari, toutes ces choses qui ont été citées dans Colossiens 3:12. L'amour, la bonté, la douceur, tout ça, le pardon, toutes ces affaires-là. Pratiquez-le avec votre couple, premièrement. C'est tellement fort ce que Dieu a créé. Puis quand on s'est unis ensemble, on a décidé d'être une seule chair pour la vie. Mm-hmm. Et je crois vraiment que la rubrique va aider beaucoup de gens. Il faut être enseignable, entendre ce que Nadine a dit ou peu importe ce qui a été dit et dire, je me reconnais là-dedans, on a tout à grandir. C'est toujours, c'est continuel. Mm-hmm. C'est comme la sanctification, c'est comme l'humilité. C'est continuel, on progresse dans notre vie. Puis il faut avoir cette attitude d'humilité et d'être enseignable et de reconnaître nos torts et puis de vouloir grandir là-dedans.
C'est ça. Il faut être capable de réaliser qu'on ne fait qu'un. Donc, si l'autre est élevé, on est élevé avec, on ne fait qu'un. Et si l'autre est abaissé, ben, on est malheureusement abaissé avec. Donc, abaisser son mari ou sa femme, c'est s'abaisser soi-même, et élever son mari ou sa femme, c'est s'élever soi-même. On ne fait qu'un. Donc, on se réjouit des victoires de l'autre. Une fois qu'il est à terre, on n'est pas en train de le piétiner à terre, mais on le relève et on s'associe vraiment. On est une équipe, en fait. Et quand on comprend ça, ça change tout. Et c'est sûr que on n'a pas les mêmes talents, les mêmes capacités. D'ailleurs, la semaine prochaine, Frank, tu vas faire une rubrique sur la complémentarité dans le couple. Et c'est important de comprendre ça. On n'est pas fait pareil. Donc, si on est sans arrêt en train de se comparer à l'un ou à l'autre, ben, on ne se sentira jamais à la hauteur et on va vouloir à tout prix s'élever. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'élever? Ben, on écrase l'autre. Donc, si on comprend qu'on ne fait qu'un, on est une équipe devant Dieu, devant les hommes, on est une équipe et on veut atteindre le même objectif tous les deux, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans notre service pour Dieu, que ce soit dans le travail, exactement, on est une équipe et on se réjouit. Et c'est pour ça que c'est très beau, des fois, de voir certaines femmes ou certains hommes qui vont renoncer à leur carrière pour éduquer les enfants en disant bah, « Toi, chérie, va au bout de ta carrière et puis je vais rester à la maison. » Puis il y a des hommes qui le font aussi, pas juste des femmes, parce qu'on est une équipe et on se réjouit pour l'autre. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si on comprend ça, ça va tout changer. Et avant de terminer cette émission, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On va regarder notre verset du jour pour bien marteler un dernier coup. 1 Pierre 3:8. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Je pense que ce verset peut tous nous amener à une réflexion et à prendre le temps de méditer sur ce verset. C'est des paroles qui sont vraies. On doit tous être capables de marcher dans l'humilité. Et Pasteur Dorothée Radjam m'avait dit un jour, et ça m'est toujours resté, « Dieu ne partage pas sa gloire ». Et ça, je veux toujours m'en souvenir comme un garde-fou. Si on veut prendre la place de Dieu à un moment donné, Dieu va se retirer. Il ne fera pas du 50-50. Nous, on lui donne notre vie et lui, il la glorifie. C'est lui qui le fait, c'est pas nous.
C'est vrai.
Donc, je vous encourage à la maison à être des personnes remplies d'humilité dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées, dans tout ce que vous faites, que tout soit pour la gloire de Dieu.
Amen.
On se retrouve demain. Notre thème sera « N'aie pas honte d'être chrétien ». Nous allons parler du privilège que nous avons d'être chrétien et non de l'humiliation que cela encourt. Et nous aurons une rubrique flashback avec toi, Anne. Nous allons parler de l'Église persécutée, l'index mondial de persécution de Portes Ouvertes. Oui, Actu, pas flashback. Une rubrique Actu, effectivement. Mmh. Et nous allons parler de l'Église en Algérie. Donc, si nous avons des amis algériens qui nous regardent, moi, je vous invite à écouter la rubrique de Anne de demain. Merci à vous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.